ça. Voilà, alors je ne sais pas si c'est calé comme ça, mais non, moi je voudrais rappeler quand même, dans l'Arabia, ce qu'il dit de Marilyn Monroe. Il dit « Marilyn, tu es la première qui a ouvert les portes du monde ». C'est-à-dire que la beauté de Marilyn, sa grâce, son angoisse, tout ça, il parle de ça. Ensuite, il s'adresse aussi à Maria Callas. « À la place de l'autre, pour moi, il y a un vide dans le cosmos, et c'est de là que tu chantes. » À Maria Callas. Voilà, donc je reviens un petit peu aussi à l'aspect poétique fondamental qui est mêlé de gravité et de joie. Un autre poème aussi, enfin un autre poème, on écrit, ouais. « J'ai été rationnel et j'ai été irrationnel jusqu'au bout. Et maintenant, trois points, ah, le désert assourdi par le vent, le soleil formidable et immonde de l'Afrique » qui éclaire le monde, Afrique.
Ma seule alternative.
Voilà. Donc, voilà, c'est... Ben, je réponds un peu sur la joie, du coup, aussi. Mm-hmm. Hein? C'est-à-dire, c'est l'extériorité de cette société de consommation qui n'a pas encore touché l'Afrique. Voilà. Donc, c'est ça, la joie de Pasolini, c'est d'aller chercher chez les autres, ailleurs, et non pas dans sa société propre, cette possibilité d'issue, en fait, hein, On peut dire ça comme ça. Il cherche une issue et il va continuer de façon très opiniâtre, en fait, hein, après l'évangile, de reprendre le grand classique grec Sophocle avec Œdipe roi, le parricide et l'inceste, avec Théorème, l'implosion de la famille bourgeoise, porcherie, où un homme préfère les porcs à sa fiancée, Médée avec le sacrifice, Décaméron, Canterbury, Mille et une nuits, Salaud. Donc tout ça, c'est, on n'en fera certainement pas le tour aujourd'hui, mais c'est un bloc dont on ne peut pas se passer pour se repérer dans cette époque de cinéma. Là, tu parlais tout à l'heure de Fassbinder. Voilà, on est dans des hautes sphères qui, j'espère, ne vont pas trop effrayer nos auditeurs, parce que on est là. Si on n'a pas vu Pasolini, ben il va falloir commencer à reprendre par le début ou même par le milieu, et pour aller chercher cette liberté et cette provocation quand même qu'il assume avec une tendresse toujours nimbée d'une haute humanité. Selon moi.
Ce sont deux frères jumeaux. Pasolini et Fassbinder, je suis convaincu que ce sont deux frères jumeaux.
Attention, parce qu'on va être obligé de faire un cinématographe 6 ou 7 là-dessus. Hein.
Là,
attention.
Fassbinder, il va falloir faire 5-6 émissions. Là. C'est pas possible.
C'est tout ?
Tu veux prolonger un peu ? Sur Fassbinder ? Sur la joie ?
Non, on en parlera une autre fois.
Ce sont deux
cinéastes. On a tellement de choses à dire sur.
Non, je propose qu'on reste sur Pasolini quand même. Non, c'est pas possible.
Oui, bon. Moi, je. Bon, je sais pas. Tu as renoncé à dire quelque chose sur Les Mille et Une Nuits, puisque c'est un film.
Sur Les Mille et Une Nuits, après.
J'avais repéré. C'est à la fois en lien avec le choix de ces acteurs non professionnels, en lien avec cette extraordinaire brûlure du soleil, et en lien avec. Bon, cette joie. Organique, viscéral et sensuel, mais aussi spirituel, qui est dans le film. J'avais relevé, à propos de l'un des futurs interprètes du film, qu'il rencontre dans un petit café en Érythrée, il dit « Mon choix s'est fixé sur Fessasian Guérantiel, le barman d'un petit café. Apparition resplendissante, son sourire explosant sur son visage comme une lumière silencieuse. » Donc la splendeur, la lumière, l'explosion. Il parle souvent des objets qu'il filme comme des engins en imminence d'explosion. Bon, alors dans les pays où il a filmé les Mille et Une Nuits, donc Afrique orientale, Yémen, Iran, Népal, manifestement, il a rencontré ce qu'il cherche, c'est-à-dire la force révolutionnaire du passé, un élan vital, non corrompu, vers le monde et vers l'autre, et un accès à la réalité sacrée des choses et du monde, mais aussi le paradis perdu d'une fraternité possible dans ces lieux. Hein. Donc le politique et le sensuel se rejoignent, même si la visée n'était pas d'abord politique. En tout cas, dans ses films, il fait du corps et de la sexualité, le lieu d'une liberté individuelle irréductible et d'un lien primordial avec l'autre. Et donc, il célèbre le pouvoir révolutionnaire de l'éros, l'innocence païenne du corps. Et ces films sont ce film est un hymne lumineux à la liberté de jouir, de raconter et de créer. Et c'est un des rares films, me semble-t-il, mais là, vous allez peut-être me démentir, où... oui,
mais peut-être pas.
Où l'amour pour les hommes et l'amour pour les femmes sont traités de manière totalement naturellement égale, c'est ce circulant,
dis, ouais. c'est ça.
Dans une sorte de monde d'avant le péché ou d'après toutes les religions castratrices.
Les mille et une nuits.
Et j'avais prévu un extrait, même si c'est pas un film que j'aime énormément. Tu veux dire?
Juste un petit mot sur Les Mille et Une Nuits. Donc, il appelait ça la période néo-décadente. Hein. Néo-décadente. Et c'est le film qu'il aimait le moins de la trilogie.
Moi aussi.
À mon avis, à tort.
Moi, j'aime beaucoup Les Mille et Une Nuits aussi. Même si je ne l'ai pas revu récemment. Et là, paradoxalement, le film qui a eu le plus de succès, je ne sais pas si vous le savez, mais
oui, pour de mauvaises raisons.
C'est Les Contes de Canterbury qui a fait 4,5 millions d'entrées en France, ce qui est absolument incroyable.
La raison pour laquelle il renie cette trilogie de la vie.
Voilà, ouais, mais c'était une période aussi où le cinéma porno était un peu en lice.
Il y a une récupération.
Et donc, je pense qu'en fait, le titre était un peu trompeur.
Tu voulais nous dire autre chose.
Rappelons pour les auditeurs, donc, la trilogie de la vie, donc, c'est Le Décaméron, d'après Boccace, et Les Contes de Canterbury, bien sûr, d'après Chaucer, et ensuite Les Mille et Une Nuits, donc.
D'après tout le monde. Ouais. Alors Malek Chebel disait que Les Mille et Une Nuits était un livre qui ne pouvait pas avoir été écrit par les hommes, donc sacrilège, encore une fois, par sa connaissance intime et subtile de la sexualité féminine. Et j'ai eu la chance de lui demander ça, il m'a répondu ça. Je trouve ça, ça serait les femmes, en ce 8 mars 2025, encore une fois, qui auraient écrit Les Mille et Une Nuits. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde dans ce côté de la... au niveau de l'islam.
Oui, mais dans les récits enchâssés, dans le film, la narratrice ou la lectrice est souvent une femme.
Inès Pellegrini est souveraine.
Elle ouvre le film et elle le clôture. Elle ne le ferme pas, puisque il y a une ouverture à une sorte d'éternité, de rêve et de jouissance partagée. Oui.
Non, mais c'est totalement cohérent parce qu'il va prolonger ainsi une espèce de prolifération des récits enchâssés, un petit peu baroque, qui est tout à fait cohérente par rapport à ce qu'il a exploré, par exemple, dans Uccellacci ou Cellini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de un côté baroque aussi chez Pasolini, un côté complètement excentrique. Un mélange de comme ça du burlesque, de tragique, enfin
c'est incroyable, c'est juste avant Salo, hein, c'est-à-dire c'est deux ans avant Salo.
Non, mais c'est une œuvre extrêmement cohérente.
13, donc si tu veux, on passe du jour à la nuit d'une certaine façon quand même. Hein.
C'est ça.
Il a cette capacité de montrer la face la plus joyeuse du corps humain en mouvement, parce que je crois que c'est surtout ça qui est fort.
Un récit de voyage.
C'est un récit
d'initiation.
D'initiation, mais surtout que quand Nino a voulu dire Zumurud, je sais même pas si Seigneur, oui. Zumurud, il la cherche avec une espèce de gaieté, avec évidemment toutes les choses trappes qu'il y a dans les mille et une nuits, mais c'est une éloge aussi du mouvement du corps, peut-être un peu comme d'ailleurs dans
Uccellini.
Oiseaux petits et gros, comme ça, je m'en sortirai comme ça. Voilà, et c'est ce mouvement, moi, que je trouve intéressant dans cette sensualité, c'est-à-dire c'est une éloge du libertinage sans problème, pas du tout mise en... mise en pause, tout ça. Voilà. Et à un moment donné, il y a d'ailleurs un roi et une reine sous une tente qui regardent le garçon qui va aller voir dans la couche de la fille, puis la fille. Et chacun, de toute façon, le roi, il est plutôt homosexuel, masculin, et la fille, elle aime plutôt les filles. Donc Pasolini, il est dans toute cette... dans tout le spectre des sexualités diverses et variées.
Oui, alors, dans la séquence, moi, que j'avais prévu de faire entendre, ce sera peut-être un peu redondant maintenant, mais tant pis, il y a, en effet, simultanément, cette célébration du corps, du désir, et aussi de la poésie comme langue du désir. C'est une séquence dans laquelle un poète de cour prolonge l'excitation érotique du sultan qui vient de voir dans une oasis une femme nue qui prend un bain. Donc le poète de cour improvise des vers pour célébrer ce corps prodigieux et prolonger l'extase érotique de son maître. Puis il va utiliser la poésie pour son propre compte, pour séduire trois jeunes garçons qu'il va inviter à venir sous sa tente. Alors je vous dis peut-être le texte avant qu'on l'entende. « Vous les gars, je peux vous lire mes vers ? Je les ai écrits il y a longtemps quand j'étais jeune, à peu près comme vous. » Alors il lit un texte. « Un homme chargé d'ans, avec des désirs jeunes, aime avec passion les beaux garçons. Le matin, il se lève dans l'esprit de Mossoul, cité de la pureté. » Mais il ne rêve tout le jour qu'à la vie pécheresse d'Alep. Alors les garçons rient et il dit « J'ai quelque chose à vous proposer. » Alors on t'écoute, parle. « Si vous n'avez rien à faire, venez chez moi. C'est plein de bonnes choses. Vin précieux porté par les frères du monastère. » Alors rire, bien sûr. « Viande d'agneau et toutes sortes d'oiseaux. Mangeons, buvons, puis vous trois, prenez plaisir l'un avec l'autre. Et si vous voulez, ensemble, donnez-moi du plaisir. » Ensuite, scène sous la tente.
Ouais, ils sont nus. Hein,
ils sont nus, pas encore. Là, ils sont, ils ont leur grande tunique. Puis nus sous la tente. La grande joie est celle du buveur qui a de beaux garçons pour compagnons. L'un chante pour lui, l'autre lève son verre à sa santé. Et quand il veut le baiser d'un autre, cet autre lui donne sa bouche. Alors un des garçons dit « Pourquoi tu n'écris pas une poésie pour chacun de nous ?» Et alors, il écrit une poésie pour chacun d'eux, très brève, et simultanément, il les caresse, il caresse leur sexe. Alors c'est « Je paierai de ma vie la douceur de cette joue, parce qu'aucune somme ne la vaut. » Premier poème. Deuxième poème. « Béni soit celui qui a fait ses joues sans poils, et y a répandu cette couleur où affluent toutes les beautés. » Si mon esprit est tranquille, il n'y a pas les images. Si mon esprit est tranquille dans ce village, mon cœur est attiré par deux désirs. Un amour me pousse vers le minaret de Bagdad et un amour vers la terre des deux mosquées.
Très bien, c'est bon.
On peut écouter un peu.
Oui, écoutons.
Ehi voi ragazzi, posso leggervi questi miei versi? Li ho scritti tanti anni fa, quando ancora ero giovane, quasi come voi. Un annoso vecchio, con voglie giovanili, ama i bei ragazzi. Alla passione dei divertimenti, si alza la mattina nello spirito di Mossul. Città della purezza, ma non sogna altro tutto il giorno che la vita peccaminosa di Aleppo. E ora vorrei proporvi una cosa.
Ti ascoltiamo, parla.
Se non avete altro da fare venite da me, che da me c'è la miniera delle cose buone. Vino prezioso portato dai frati del monastero. Carne di agnello e tutte le specie di uccelli. Mangiamo, beviamo.
Bon, là, je pense qu'on peut arrêter parce que bon, j'ai dit le texte et c'est surtout verbal là. Alors que ce qui caractérise beaucoup le cinéma de Pasolini, c'est le recours à des représentations non verbales, justement. Je sais pas, il y a deux grands moments de parole, c'est le sermon sur la montagne du Christ, et puis là, ce discours érotique du poète. Mais la Callas est muette quasiment dans Médée. Théorème est un film totalement silencieux. Je pense que dans Médée, il doit y avoir, je crois, avoir cherché ça, 20 phrases de dialogue. Et dans Théorème, bon, c'est uniquement le corps qui révèle les choses. Alors, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur quelque chose de ce type-là ou parler de la raphaélisation des corps, puisque oui. Je viens de prononcer le mot corps.
Oui, parce qu'en fait, Pasolini a dit la chose suivante, il a dit que son goût cinématographique était pictural. C'est-à-dire ce qu'il aimait, finalement, au contenu des références cinématographiques... c'est quelqu'un qui produisait tellement que paradoxalement il disait j'ai ni le temps de lire ni le temps d'aller au cinéma. Alors on sait qu'il aimait par exemple particulièrement un film de Paul Vecchiali qui s'appelle Femme. Il a écrit un merveilleux article d'ailleurs là-dessus. Bon, de temps en temps, il a...
59 par là, quelle année?
Non, c'est beaucoup plus tardif, c'est 60, c'est vers la fin de sa vie.
Il est noir et Vicali?
Ah non, c'est en couleur.
Ah oui, c'est en couleur.
C'est une sorte de film musical, un peu à la assez proche de l'univers de Jacques Demy, enfin avec des proximités. C'est un merveilleux film. Hein. D'ailleurs, il utilise les deux actrices dans Salaud.
Dans Salaud, oui. Oui, bah, tu peux donc prononcer leur nom puisque tu as voulu parler des femmes. Hélène Surgère,
voilà, et la deuxième.
Et Sonia Saint-Pierre.
Voilà, Sonia Saint-Pierre.
Qui est pianiste dans la vie et dans le film de Pasolini.
Exactement, et qui se suicide.
Et elle se suicide.
Elle se suicide, exactement. Donc voilà, alors c'est...
Voyant ce que nous ne voyons pas dans le film Salaud, c'est-à-dire les tortures finales.
Exactement. Alors la rafalisation, le terme n'est pas de moi, le terme est de, j'aurais bien aimé, mais le terme est d'Alain Bergala, qui a écrit des très belles choses aussi sur Pasolini, notamment dans un numéro spécial Pasolini, qui date vraiment, parce qu'après Pasolini est un peu tombé dans l'oubli. Donc c'est indéniable que chez Pasolini, il y a effectivement... un maniérisme, cette fois dans le sens pictural, j'avais parlé du maniérisme dans la définition que donnait Serge Danet, c'est-à-dire Pasolini aime effectivement figer ses personnages dans des postures un petit peu dandy d'ailleurs, et il aime aller filmer des détails. Il aime, à la main des maniéristes, trouver des détails. Ça va être les yeux, ça va être les oreilles, ça va être paradoxalement pas forcément les parties les plus nobles du corps.
Fragmenté, quoi.
C'est
alors.
Ça qui est original. Il aime fragmenter, il aime, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il aime détacher un petit peu, filmer, voilà. Donc ça va être filmer des choses, pas forcément les maxillaires, les joues, chez les femmes, ça va être parfois même les aisselles, ça va être pas forcément les parties les plus nobles du corps, mais... Incontestablement, Pasolini est quelqu'un qui aime élire ses personnages, qui aime. Il y a un geste d'élection de la caméra. Il y a vraiment un amour, une pulsion de la part de la caméra, et c'est très évident parce que quand on ouvre tous les livres qui ont été consacrés à Pasolini, il y a des merveilleuses photos sur notamment Franco Chitti, La Calasse. Alors c'est valable surtout pour les hommes. C'est vrai qu'il a merveilleusement filmé les hommes, bien sûr. Mais il a aussi superbement filmé les femmes, que ce soit notamment Anna Magnani, La Calasse.
De toute façon, c'est la seule c'est la seule apparition de La Calasse au cinéma.
Voilà. Et ça aussi, c'est prodigieux. C'est la seule apparition de sa maman.
De sa maman.
C'est un portraitiste aussi extraordinaire, quelqu'un qui va les filmer en très gros plan parfois les personnages. Et ça donne des scènes. C'est aussi un filmeur. C'est non seulement un penseur extraordinaire, quelqu'un qui a le sens de la poésie, qui a le sens de la formule, mais c'est aussi quand même on n'a peut-être pas assez parlé, un filmeur prodigieux.
Un inventeur de forme,
quelqu'un qui est vraiment... qui manie la caméra de manière absolument merveilleuse.
Il y a une dynamique, en fait.
Ah oui, bien sûr. Il y a une énergie dans le cinéma de Pasolini absolument formidable.
Oui, je pensais, à propos de la forme, là, chez Pasolini, et du style, il me semble avoir remarqué, je n'avais pas remarqué ça avant, mais je l'ai remarqué en regardant cette semaine à nouveau des notes, qu'il y a, chez Pasolini, une conception du temps qui est un temps cyclique, qui est celui de la nature, celui de l'éternel retour des saisons, qui est ce temps ancestral, primordial, primitif, barbare.
C'est ce qu'il essaie de retrouver, effectivement.
Et il y a aussi dans la structure de ces films quelque chose de circulaire, de cyclique. Qui va avec. Tu parlais de quel film à l'instant, là ? Oui, il y a cette structure cyclique.
La structure cyclique. Alors, les contes de Canterbury, peut-être plutôt. Mm-hmm. Hein, les contes de Canterbury ou encore Les Mille et Une Nuits, c'est vrai.
Mm-hmm. Oui.
Ah, c'est vrai.
Et je pense même Théorème, parce que dans Théorème,
Oedipe Roi, puisque il y a eu la prophétie qu'on y revient.
Alors, dans Théorème aussi, au début, le film s'ouvre sur cette séquence contemporaine où des ouvriers devant leur usine apprennent que leur patron vient de leur donner l'usine. Donc il s'est dépouillé de cette propriété dont il est le détenteur, le grand industriel milanais. Et à la fin du film, il se dépouille de tous ses vêtements, ce même grand bourgeois dans la gare de Milan. Et alors, rupture brusque, un film de montage, on l'a déjà dit. Il est dans le désert où il court sur les pentes de l'Etna comme un fou. Oui, et il hurle devant, le vide des cieux, devant l'énigme de son existence, devant l'effondrement de tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. Oui. Alors, ce caractère cyclique, oui, tu dis dans Édipe, avec un retour à l'origine. Au début, la première scène, dans un pré, on est dans les années 20, Sylvana Mangano, la mère, donne le sein à l'enfant. Et à la fin, Édipe bascule dans le monde contemporain. On est dans les années 60.
En étant aveugle, comme dans le mythe.
Puisque dans la partie centrale, c'est la pièce de Sophocle où... tout l'itinéraire d'Édipe est relaté.
Et c'est Ninetto d'Avoli qui lui sert de guide.
Qui lui sert de guide. Et à la fin, il revient dans le pré originel. Alors, est-ce que tu pourrais nous passer l'extrait 4, Édipe, le final ? Donc, Édipe, la main sur l'épaule de Angelo, enfin le messager, Ninetto d'Avoli, chemine, il traverse un village, puis il passe devant la maison de l'enfance de Pasolini à Casals, enfin de vacances à Casals, et puis on entend à ce moment-là une musique militaire, rappel. Du métier du père, hein, militaire de carrière. C'est le film sans doute le plus autobiographique de Pasolini. Édipe au roi, oui. Et ensuite, ils vont traverser un pré et il va demander à Ninetto où ils sont. Il va lui décrire ce pré. Donc il y a un grand pré vert.
Siamo in un posto con tanti alberi messi in fila e con tanti fiumiciattoli e un grande prato verde verde.
Donc je vois la lumière pour la dernière fois et la vie finit là où elle a commencé pour évoquer
le côté cyclique. Ouais.
Bon puis la caméra va faire un panoramique en contre-plongée sur les cimes des arbres et
alors il fait souvent ça Pasolini, hein, il a souvent il aime filmer les arbres, il aime filmer les frondaisons.
Mm-hmm. Et c'est le même plan qu'au début du film, c'est pour illustrer cette idée de d'une structure cyclique et d'un temps qui est une aspiration du recommencement, du retour à l'origine, dans un état de virginité. Donc le vieil homme coïncide avec l'enfant innocent. Oui, la quête d'une innocence perdue peut-être, celle de l'individu, mais celle aussi du monde et des sociétés. Alors je crois que tu voulais aussi parler
Je pense qu'on va pas.
Oui, juste pour
temps,
finir
mais,
peut-être.
Mais alors moi je voulais.
Des notes pour une Orestie africaine.
Oui, ça, mais non.
Parce que là on est dans Édipe.
Complètement oublié. Ah oui, l'Orestie. Oui. Ah oui, mais alors oui, entre
c'est
Sophocle.
Un documentaire.
Entre Sophocle et effectivement Eschyle, on est quand même dans des régions tout à fait différentes. Je vais me répéter. Je vais me répéter un petit peu par rapport à la dernière fois. Mais c'est vrai que l'Orestie africaine, en fait, il interview des étudiants africains qui sont en Italie, je crois, ou en Ouganda.
Dans une des séquences.
Et ensuite, il va chercher un repérage pour faire ce film qu'il ne fera pas en filmant. Il dit, celle-là, elle ferait une très belle Thémestre, celle-ci.
Agamemnon.
Et ça donne une intelligence incroyable à ses corps, c'est-à-dire d'être relié à la grande mythologie grecque. Voilà, et c'est assez... On revient à cette question de filmer les corps avec sans idée préalable, en fait, simplement en saisissant le mouvement, la beauté inhérente à ce côté naturel, sans caricature, de l'Afrique, quoi. Donc voilà, moi je vois, effectivement, c'est là où je voyais cet aspect joyeux, d'aller à la recherche de la joie, aller chercher le contact, la beauté des visages, simplement la lumière, encore une fois. Alors, je vais juste